l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et rediffusée à 18h. Aujourd'hui, un retour vers le passé et vers un sujet que nous avons déjà exploré récemment avec le Centre départemental d'archéologie, pas directement mais en tout cas son directeur. On revient à la villa de Saint-Frégan, villa gallo-romaine dite de Keradenec. Elle est exceptionnelle par son ampleur et par sa richesse et la commune de Saint-Frégan souhaite valoriser ce patrimoine archéologique, ça tombe bien. Les amis du musée du Léon se sont vus confier les prospections préalables à une reprise des études plus approfondies. De nouvelles fouilles auront lieu, le site a déjà été fouillé dans les années 70, hein, sous la direction de René Sanquer et Patrick Galliou. Et aujourd'hui, le maître archéologue des lieux, si on veut, c'est Ronan Bourgault, qui est donc le directeur du Centre départemental d'archéologie et qui vient régulièrement sur Radio Évasion. Vous le connaissez sans doute. Bonjour Ronan.
Bonjour.
Donc on a déjà fait une émission il y a quelques semaines qu'on peut réécouter hein, sur le site de Radio Évasion. Juste pour mémoire, il y a 3 prospections qui ont été menées donc assez récemment sur le site. C'était quoi en gros ces 3 prospections
Oui, alors ces 3 prospections qui... Alors c'était d'abord de la photographie aérienne, donc de la prise de vue par drone. Et voilà, qui servait à produire une couverture photographique des archives. C'était une prospection pédestre aussi, sur une parcelle labourée. Et c'était enfin une prospection géophysique.
Avec une drôle de machine qu'on peut toujours voir sur le site internet de Radio Évasion. Donc ça, c'était en fait pour vérifier. En fait, c'est ça, ça sert à quoi? Vérifier que les premières fouilles n'étaient pas trop mal faites déjà
Ça sert à plusieurs choses. Ça sert en effet à confirmer le plan qui avait été produit par les fouilleurs de l'époque. Ça sert également à... savoir vers où on se dirige, vers quoi on se dirige, parce qu'en fait, ça nous apporte une image du potentiel du sous-sol. Voilà, ça nous permet de savoir si c'est bien conservé, ou si c'est toujours là ou pas.
Ça y est, les données sont analysées, les données de ces 3 prospections, c'est fini.
Ça y est, le rapport est rendu.
Bon, on va pouvoir revenir dessus. On va revenir bien sûr sur le site, parce que lors de la dernière émission, finalement, on n'en a pas parlé tant que ça de ce site. Donc on va peut-être détailler un peu sur la situation géographique de cette villa. Donc Keradenec, c'est le lieu dit, je suppose, à Saint-Frégan, c'est ça?
Keradenec, c'est le lieu dit, oui, c'est à Saint-Frégan. Il se trouve entre le bourg, en fait, et la route départementale 32, celle qui relie l'Esnevin à Plouguerneau.
Et alors, si on se transporte à l'époque gallo-romaine, qu'est-ce que c'était géographiquement comme endroit?
Alors, qu'est-ce que c'était d'abord, cette fameuse départementale? Ben, c'était a priori une voie romaine. Elle est connue comme telle depuis toujours, et d'ailleurs à proximité, dans un hameau qui s'appelle Kerskao, une borne millière, donc pas une borne kilométrique, mais millière, puisqu'on comptait en mille, d'époque romaine, a été découverte. Et elle est conservée actuellement au musée de Quimper.
Et cette voie romaine allait d'où à où, en gros
Alors, elle reliait, en fait, c'est une des voies qui reliait Carhaix, la capitale Vorgium, la capitale romaine de l'époque, à la mer. Et donc, elle passait par Quérilien, qui est une petite agglomération qui portait le nom de Vorganium. Et puis, ensuite...
Donc, vers Plounéventerre, on va dire,
exactement.
Quoi.
Exactement. Et ensuite, l'estuaire de la Bervrac.
Est-ce qu'on sait, d'ailleurs, cet estuaire de la Bervrac, s'il a été exploité économiquement, entre guillemets
Alors, en fait, c'est une grosse inconnue. Le problème qu'on a, c'est on ne connaît pas les ports d'époque romaine. On se doute bien que, comme aujourd'hui, la plupart des ports étaient des ports d'échouage. Et le problème des ports d'échouage, donc, c'est qu'il n'y a pas de vestiges, il y a des mouillages. Les bateaux se posent à marée basse, on les décharge et puis à marée haute, ils repartent.
On peut supposer quand même que c'était un endroit stratégique, cette implantation de la villa de Keradenec.
Tout à fait, oui. De toute façon, il faut bien avoir en tête qu'un estuaire aussi navigable justement qu'est celui de la Bervrac, qui est donc vraiment une pénétrante de la mer dans les terres, c'est un débouché économique. La villa de Keradenec, c'est un outil économique avant tout. Donc on produit des céréales, très probablement. On produit peut-être d'autres denrées, ce sera à découvrir. Et quoi qu'il en soit, on les fait circuler ensuite, on les injecte dans le circuit commercial par la route, certes, mais surtout par voie maritime.
Donc il y avait une route, une voie romaine, enfin il n'y a pas de croisement quand même, si éventuellement, non?
Alors si on connaît ou on se doute qu'il y a pas mal de voies secondaires, on appelle ça des diverticules, il y a une petite route qui est au sud immédiatement du site de Karadenek, qui est appelée chemin romain. Alors, il y a des doutes, il y en a certes. Beaucoup estiment que c'est un chemin d'époque médiévale. Il n'est pas impossible, quand même, vu les axes d'orientation de ce chemin, qu'il soit intégré beaucoup plus anciennement au paysage et peut-être à l'époque romaine, en effet. Quoi.
Et alors, la ville, entre guillemets, la plus proche, ça aurait été Vorganium, enfin, ou est-ce qu'il y aurait pu avoir d'autres agglomérations proches de cette villa?
Alors, de façon connue, la ville la plus proche, oui, c'est Vorganium. On peut estimer, en fait, que par voie terrestre, la villa de Karadenek se trouve à une demi-journée de marche à pied, enfin oui, de marche, et quoi, 3 heures de cheval, même pas. Non, pardon, 1 heure de cheval. Donc voilà, c'est la ville la plus proche. Après, il y a certains textes plutôt médiévaux qui parlent d'autres types de villes. On connaît Tolente, on connaît Oxismore. On ne sait pas si c'est des villes vraiment légendaires ou réelles. Ce qu'on sait, c'est qu'on n'en a jamais trouvé la trace de toute façon. Mais en effet, la tradition voudrait placer une ville dans ce secteur-là.
Bon, en tout cas, ce n'est pas du tout étonnant qu'il y ait eu à cet endroit-là une villa, un complexe, on va dire, de cette taille. Quoi. Enfin, voilà, ce n'est pas surprenant.
Non, c'est tout à fait normal. Ça fait partie des domaines, grands ou petits, qui constellent le paysage rural à l'époque romaine et qui servent non seulement d'outils économiques, mais également d'implantations culturelles, en fait, de tête de pont de l'acculturation.
D'accord, parce qu'en fait, ce qu'il faut peut-être préciser, ce sont les dates, enfin la date de création, en tout cas, elle est connue de cette villa, de cette implantation.
On la suppose au tout début du 1er siècle après Jésus-Christ, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle s'installe sur un substrat indigène gaulois dont il nous revient de trouver la forme. Ça a été, on va dire, effleuré dans les années 70 par les fouilleurs de l'époque. Il y a quelques fragments de céramique de cette époque-là, de l'époque gauloise, on va dire du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui ont été mis au jour. Voilà, il faut qu'on sache à quoi correspondait, à quel type d'habitat correspondait ce mobilier. Si on fait un rapprochement, par exemple, avec la villa du Pérennou, à Plomelin, fouillée par Jean-Charles Aramon, lui, ça fait un moment qu'il est sur cette fouille. Il a désormais, vous savez, on commence toujours du plus récent vers le plus ancien. Donc, il a désormais quitté la période romaine et il a mis au jour une ferme gauloise exactement sous la villa romaine. Donc, on est très probablement dans ce cas de figure à Karadenek.
C'était souvent comme ça ?
Souvent, je pense, oui.
D'accord. Donc, est-ce qu'on peut faire un plan du bâtiment? Alors, je sais que c'est compliqué parce que l'occupation est très longue, mais qu'est-ce qu'il y a en gros? Qu'est-ce qu'il y avait comme bâtiment? Et puis peut-être en détaillant les époques.
Oui, vous me parliez de la création de cet établissement. Ce qu'on ignore et ce qui n'a pas pu être démontré à l'époque des fouilles des années 70, c'est la forme de la première villa du 1er siècle. On sait qu'il y avait un bâtiment. Est-ce qu'il était construit en dur? On suppose que c'était plutôt une architecture mixte de matériaux périssables et de pierres, et forcément des surfaces et des bâtiments plus petits. Dans son apogée, au IIe siècle après Jésus-Christ, la villa, c'est un énorme complexe qui fait plus de 4000 m² d'emprise au sol. C'est énorme. On a quatre ailes de bâtiments qui encadrent une cour qui elle-même fait plus de 1600 m². Donc c'est une cour avec des galeries qui tournent un peu comme un cloître, hein. Comparer ça.
Vraiment une cour urbanisée, entre guillemets, enfin pas pour cultiver, pas pour faire un jardin intérieur.
Une cour privative, oui. Ouais. Alors, est-ce que c'était une cour d'apparat de luxe? Très probablement. Ou est-ce que c'était une cour où on faisait rentrer les charrettes, par exemple, et qui servait à l'agriculture? Pourquoi pas? Là, il faudra vraiment qu'on détermine ça. Et donc, autour de cette cour, donc, qui fait globalement 40 mètres carrés de côté, 40 mètres de long de côté, c'est ce qui est gigantesque. Hein.
Et en effet. Ouais.
On a une aile thermale qui se situe à l'est, qui a été fouillée dans les années 70.
Toute une aile.
Ouais, toute une aile. Mais si on connaît beaucoup d'autres villas, notamment en Ille-et-Vilaine, je pense à. Et en Côte d'Armor, donc en Ille-et-Vilaine, je pense à la Guillaumeraie, à Noyal-Châtillon-sur-Sèche, fouillée par. De mémoire, je crois que c'est Romuald de Ferrette. On connaissait le Langrolet-sur-Rance, à côté de Dinan. Fouillé par Bastien Simier. Ces villes-là, en fait, elles n'ont pas seulement une aile thermale, elles ont plusieurs bâtiments thermaux. Alors,
comme si c'était des bâtiments publics, un peu, en fait, enfin, même si ça reste privé. Comme si...
Oh, je ne pense pas que ce soit vraiment public. Là, on est chez des gens très riches, très puissants et qui se dotent d'équipements de luxe.
Pour eux, juste pour eux, quoi.
Ouais. Pour eux et pour leur prestige. On est presque dans du palais, dans du petit château.
Ça, hein. Ouais.
Donc, effectivement, on suppose qu'à Keradenec, l'aile thermale était de ce type-là. Et il n'est pas impossible qu'on trouve d'autres bâtiments thermaux qui sont donc pas synchrones. Hein,
D'autres époques, quoi.
Voilà, ouais, exactement. Ouais. Parce qu'en fait, c'est quand même des bâtiments solidement construits, mais également fragiles, parce qu'il y a de l'eau qui circule.
Et solidement construits en quoi, d'ailleurs, en général?
Ce sont des maçonneries de pierre. Des sols bétonnés, hein, comme du béton d'aujourd'hui, mais avec ce qu'on appelle du béton de tuileau. Donc c'est du mortier de chaux avec des fragments de terre cuite dedans, qui donnent, en fait, il y a des réactions chimiques qui se produisent et ça donne un effet d'étanchéité au sol. Voilà.
C'est ça qu'on appelle le béton romain, non? C'est pas ça?
Oui, ouais, en partie. Ouais. Et puis alors les thermes très richement décorés, donc ça a été bien vu aux fouilles, avec des enduits peints.
Qu'on a pu conserver un peu, quoi. Ouais,
ouais, ouais, ouais, qui sont conservés, qui sont exposés au musée du Léon, d'une part, en partie. Je crois qu'il y en a également au musée de Rennes, au musée de Bretagne. On a effectivement beaucoup, nous, dans le dépôt du Fou, du centre d'archéologie. Et donc, c'était des décors, non pas figuratifs, mais plutôt un peu végétaux, on va dire, stylisés. Il y a quand même une figure d'un animal, alors j'ai oublié le nom exactement, mais c'est un avant de cheval et puis un arrière de poisson ou de serpent.
Voilà. Un animal mythique, quoi, en tout cas.
Exactement, oui.
Ah ouais.
Ensuite, il y a donc les autres ailes. L'aile nord, apparemment, comportait un bâtiment d'apparat avec des pièces chauffées par le sol, ça existait déjà. L'aile ouest a été moins bien évalué à l'époque, donc il nous reviendra d'y revenir en fait cette année ou les années qui viennent. Du mobilier laissait supposer qu'on était dans ce secteur peut-être au niveau des cuisines. Bon, ça reste à vérifier. Et l'aile sud, alors c'est un peu la grosse découverte de cette année à l'analyse de la cartographie géophysique qu'on a pu faire. On se rend compte que l'aile sud est gigantesque. Elle est d'une largeur supérieure aux autres ailes, a priori. Et si notre cartographie est juste, ça demande encore une fois une vérification sur le terrain, mais si c'est juste, on est sur quelque chose qui fait 90 mètres de long en façade extérieure, avec une quantité de pièces très importante.
Ah oui, il y a des pièces, c'est pas juste hangar. Quoi.
Non, voilà, c'est extrêmement structuré.
Ouais. Alors ça aurait pu être quoi, pour le personnel, enfin, si on extrapole pour...
Alors, on sait qu'il y a deux secteurs qui ont l'air plus grands, plus importants, d'un peu plus grande dimension et mieux fondés. En tout cas, les échos géophysiques sont plus fermes, on va dire. Donc, si c'est mieux fondé ou si les murs sont plus larges, on peut supposer des étages et pourquoi pas des petites tours. Donc là, on est un peu dans la para.
Ouais, pour se voir de loin, enfin, pour faire château, quoi, ouais.
Ah, pour faire château.
Ça se faisait quoi. Apparemment, il y avait des villas romaines qui avaient des tours.
Oui, ouais. Il y en avait, bien sûr.
Ah ouais, d'accord.
Oui.
C'est pas l'image qu'on en a en fait.
Non, c'est vrai.
C'est pour ça.
Alors, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui a été démontré en Bretagne. Et donc, bon, je reste très prudent aussi.
Ce serait une première.
Ça serait une première. Ouais. Mais c'est quelque chose qui n'est pas anormal en soi. On en connaît dans beaucoup d'endroits, oui.
Et justement, de ce qu'on sait des autres villas romaines, enfin, pas forcément gallo-romaines d'ailleurs, en Europe, c'était. c'était même de leur évolution dans la chronologie de l'histoire romaine, c'était ça. Donc ça commençait entre guillemets modestement, puis après il y a eu une apogée toujours à la même époque, et puis c'est ça en gros. Et puis même le type d'activité, c'était toujours un peu, il y avait des schémas ou pas?
C'est assez schématique en effet. Mais ces schémas ne s'appliquent pas de la même manière en fonction de la région. C'est vrai qu'en Italie, les grandes villas apparaissent très tôt. Hein,
oui, forcément.
Forcément. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, on a de très belles choses. Donc effectivement, tout le pourtour méditerranéen, Mare Nostrum, c'est déjà quand même bien équipé dans ce genre de bâtiments. Et effectivement, au fur et à mesure que la civilisation romaine se développe sur le continent européen, on va dire, ce phénomène de villa apparaît ou accompagne le phénomène. Quoi, voilà. Ce sont des outils économiques avant tout.
Est-ce que c'était les principaux centres économiques quelque part, en dehors des...
Oui.
Pas comparable aux villes, évidemment, mais bon...
La ville, c'est un marché, c'est un débouché.
D'accord.
Bon, y a des artisans, etc., des commerçants. Mais effectivement, la matière première, en tout cas les denrées agricoles, sont fournies exclusivement par les villas. Donc oui, c'est une richesse inouïe.
Et est-ce qu'on connaît des usines, des équivalents qui seraient manufacturiers d'une villa? Parce qu'une villa, on a compris, c'est quand même une super ferme, quoi. Est-ce qu'on connaît des usines, ou je sais pas, céramiques, justement? Enfin, je crois qu'on va en parler d'ailleurs un petit peu.
On connaît ça. Alors, moi qui ai fouillé beaucoup dans le sud de la France... là-bas, il était fréquent que les grandes villas, qui étaient des villas non pas productrices de céréales, mais plutôt de vin, étaient accompagnées de leur propre centre de production d'amphores. Voilà. Et donc, ça donnait lieu à des bâtiments supplémentaires de grande ampleur, parce que les amphores, il en fallait beaucoup. Et puis, c'est grand comme récipient. Ce qu'on connaît pour l'instant en Bretagne, c'est moins évident. Comment est-ce qu'on stocke et comment on transporte le grain? Pas forcément en amphore, plus volontiers dans des choses qui ne sont pas conservées, des sacs en toile.
Bois, tonneaux.
Voilà, exactement. Mm-hmm. Donc du coup, la question de ces grands centres de production céramique ne se pose pas forcément, en tout cas pas en ces termes, pour la Bretagne. Cela dit, il y a quand même un besoin de ces productions-là. Et si on ne trouve pas le marché à proximité, c'est bien d'avoir la production chez soi, en effet. Donc oui, alors je sais je vois
alors,
où vous voulez en venir.
Pour Keradenec, en l'occurrence, il y aurait peut-être un centre de fabrication proche, c'est ça? Enfin, on ne sait pas si c'est lié.
On ne peut pas affirmer pour l'instant que ce qui a été découvert par la prospection pédestre par Ninoc Jaouen à Kernilis...
Qui était venu faire une émission sur les amphores, parce que c'est sa spécialité.
Ouais. On ne peut pas affirmer pour l'instant, d'une part, qu'il s'agit bien d'un centre de production potière, même si tous les indices pourraient laisser croire. Et on ne peut pas non plus affirmer que ce soit directement en lien avec la villa. Ceci dit, effectivement, c'est très proche. Il me semble qu'à vol d'oiseau, on est à 2 km maximum.
Et c'est la même époque, en gros, quoi. Enfin,
oui, c'est la même époque.
Ouais. Et sur le site même de Keradenec, donc là, on a parlé des bâtiments de la grosse ferme, on va dire, mais c'est 4 hectares en tout, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on connaît des alentours? Est-ce qu'il y a d'autres bâtiments éventuels qui ont pu être...
Alors, ce dont on a parlé, c'est les bâtiments d'apparat. Plus qu'une grosse ferme,
on est sur la
demeure aristocratique de l'élite. Ce qu'on connaît pour l'instant du reste, c'est rien. Mais ce que nous a livré la prospection géophysique, donc la cartographie du sous-sol, c'est manifestement une myriade de petits bâtiments, de petites dimensions. Ça va de bâtiments extrêmement petits qui font 3 mètres de côté à des bâtiments peut-être un peu plus grands. Certains ont l'air d'être fondés sur du dur, donc peut-être des semelles de fondation en pierre. D'autres ont l'air d'être en bois, ont laissé moins de traces, des traces en creux. Et ces bâtiments-là, on peut imaginer qu'ils relèvent de 3 types d'occupations ou d'activités. D'une part, l'habitat domestique, l'habitat des ouvriers.
Donc un petit village quand même, quoi. Voilà.
Je ne sais pas si on peut dire village, mais voilà. Ça, c'est une chose. D'autre part, l'artisanat, puisqu'il y avait besoin d'ateliers sur un domaine agricole. Et en l'occurrence, on a découvert énormément de scories de fer à la prospection pédestre. Donc on suppose qu'il y avait de la forge en lien très directement avec les besoins immédiats du domaine agricole.
Pour faire des outils agricoles, quoi.
Exactement, oui. Et puis, en troisième lieu, forcément, tout ce qui sert aux productions agricoles, donc granges et greniers, étables éventuellement. Pour l'instant, on n'a pas encore un plan qui se dessine très clairement, parce que les échos qui sont rendus ne sont pas très nets. Voilà. Mais on a des secteurs qui conviennent d'explorer. Et on a certains secteurs où on a des doutes, en effet, éventuellement peut-être de présence de fours. Donc, moi, je pense à des fours de potiers. Parce que c'est vrai qu'avec Ninoc Jaouen, ce qu'on cherche, c'est les ateliers de production du Finistère. Ça manque un petit peu, quoi, voilà. Donc on n'est pas à l'abri d'un atelier de production, peut-être de petite ampleur à Keradenec, pourquoi pas.
Peut-être que dans le Finistère, on faisait plutôt du tressage, de la vannerie qui laisse moins de traces, non ? Je sais pas, on sait ça d'ailleurs.
Alors ça laisse moins de traces. Moi, j'en ai trouvé de la vannerie, mais dans des puits. C'est conservé dans des milieux anaérobies, sans lumière, sans oxygène, donc la décomposition
ne se fait
pas. Faut de l'eau et pas de lumière. Voilà. Dans le Finistère, il y en avait forcément, mais on sait qu'il y avait des productions céramiques locales, ça on le sait. Voilà.
Et en termes de production agricole, est-ce qu'on a une vague idée de ce qui était cultivé, élevé, peut-être pas forcément à Keradenec, mais par rapport à d'autres découvertes extérieures
Des cultures céréalières et puis de l'élevage, de l'élevage vivrier.
Ouais, c'est ça. Et il y a pas de, enfin là, on parle d'archéologie, hein, de traces sur le terrain, mais éventuellement, est-ce qu'il y a des documents qui parlent de ça, qui mentionnent l'activité économique locale ?
Oui, bien sûr, il y a des documents. Déjà, de toute façon, la production de blé, c'est quelque chose d'extrêmement politique. Rome, c'est la civilisation du panem et circenses, du pain et des jeux. Donc l'État centralisé romain ou centralisateur, je sais pas trop comment dire. Avait pour politique de ne pas affamer le peuple, de lui donner à manger. Donc il produisait du blé ou il fournissait du blé pour le pain. Et d'ailleurs, non loin de la Bretagne, à une échelle un peu plus large, on connaît à Jublin, en Mayenne, un fort.
Un magnifique fort. Site.
Ouais, c'est un superbe site. Ouais. Sur la petite ville antique, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Novio du Nome.
Je serais incapable de dire.
Et donc un fort où étaient stockées les récoltes de grains, de blé, qui étaient destinées à la nonne ou à la distribution publique.
Quoi. Donc vraiment défendu, un fort. Quoi.
Et défendu, ouais. Bien sûr. Ouais, ouais.
D'accord, après on ne sait pas si la Bretagne n'est peut-être pas très céréalière comme région, pour des raisons plus climatiques, non ? Pas forcément.
Oh si, je pense, il n'y a pas de souci là-dessus.
Ils ne spécialisaient pas quand même les Romains à ce point-là, l'agriculture, quoi. Elle était quand même assez diversifiée, j'imagine.
Ils étaient pragmatiques, donc ils faisaient pousser ce qui pousse dans les endroits donnés. C'est vrai que par exemple au Q, à côté de Dinan, Jean-Charles Aramon, encore lui, a montré la présence de vergers.
Oui, est-ce qu'on avait déjà des pommiers par exemple, nous
Bien entendu, il y en avait, oui, évidemment.
Mais on n'en a pas trouvé la trace encore, quoi.
On a au moins les traces de plantation, ce ne sera pas des pêches, en tout cas, ça c'est sûr. Donc...
c'est clair.
Et effectivement, donc, en fait, la démarche nous, qu'on veut initier à Keradenec, ce n'est pas seulement de fouiller la villa elle-même, c'est aussi les bâtiments, ceux que je viens de vous d'évoquer, et puis à plus large échelle, de voir s'il y a des traces des cultures. Dans le sud de la France, c'est facile de retrouver des traces de vignes, de vignobles, parce que c'est des petites tranchées qui sont creusées profondes et qui sont bien, bien conservées dans le sous-sol. Tout ce qui est céréalier, rien n'est conservé. C'est des labours très, très peu profonds. Restent effectivement les traces, en règle générale, de vergers qui eux, sont faciles à définir parce qu'on voit des grandes traces alignées. Après, à nous de voir s'il faut considérer que ces fosses de plantation, elles datent de l'époque romaine ou elles sont plus récentes. Mais bon, on a forcément les méthodes pour savoir.
Et au printemps, là, ce qui va commencer, qu'est-ce que vous allez faire au printemps On a juste, en une minute et demie.
Au printemps, ce qu'on va faire, c'est une série de sondages, un peu comme on fait les diagnostics d'archéologie préventive, donc des tranchées de 3 mètres de large et puis de longueur indéfinie en fonction de ce qu'on trouve, et puis qui s'arrêtent exclusivement au niveau d'apparition des vestiges. L'idée, c'est de sonder les 4 hectares de terrain qui sont mis à notre disposition, qui appartiennent à la commune de Saint-Frégant, et de circonscrire, d'une part, les contours de la villa, en essayant de pas trop aller sur les architectures de la villa elle-même, enfin de la partie habitée, de la maison de maître, mais surtout également d'aller voir les aménagements annexes, voilà, pour savoir globalement comment est-ce qu'on va organiser les fouilles dans les années à venir.
D'accord. Et dans les tranchées, on regarde vraiment tout à la loupe ou au contraire, on... Enfin...
On ne va pas aller dans le détail, non. C'est vraiment l'idée, c'est de compléter en fait la cartographie du site.
D'accord, très bien. Bon, bah, de toute façon, quelque chose me dit qu'on suivra régulièrement cette aventure archéologique.
Oui, il y a des chances.
Ouais. Bon, super, on s'en réjouit d'avance. Merci Ronan.
Merci à vous.
Alors, on retrouvera le Centre départemental archéologie le vendredi 11 mars. On viendra cette fois sur les fouilles de la départementale 770 avec Johan Dieu.